Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce début de semaine à Côté Club, 22h, 23h en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est le rendez-vous de toute la scène française inclusive au maximum. Une heure chaque soir pour faire le tour de l'actualité musicale. Ce soir, rencontre au sommet avec Attic en toute majesté. Bonsoir Attic.
Bonsoir.
Attic qui a rangé ses chaises pliantes, sa série de mixtapes, et il installe à la place un premier double album Vagalam avec 29 titres, un album stylé placé sous le signe de la mélanie. Marion ?
On sera en ligne avec Thérèse, c'est la poupée tigre de la pop urbaine. Elle sort son premier EP, Rivalité, métissé militant. On en parle avec elle vers 22h30.
Voilà, vous savez tout, ou presque, parce que maintenant on entend tout. Alors, bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter.
Et tout de suite, on ouvre avec une des révélations de l'année. Comme vous, Attic, même promotion, dernière victoire de la musique. Et comme vous, le cinéma la sollicite. D'ailleurs, elle va accepter un prochain film. Dans la S, c'est définitivement du passé. Mais pour vous et pour Lucen de Yakuza, rien ne s'oublie sur France Inter.
En ces temps, rien n'est parfait. Je suis la clé, la solution et les faits. Si ce monde part en fumée, on revient de tout, même du succès.
Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance, si tu ne crois pas que ma patience a des limites, tu te trompes à chaque fois. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché, mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Depuis quand j'ai découvert, non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Je me roupille, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Je me roupille, faut juste faire de l'argent. J'ai des vrais sorts dans la haine. Faut percer, quitter la tête. Bad card, pay en espèce. Prends le game en toute vitesse. And you know, and you know, and you know, and you know. Comme la seule au monde, il joue au ping-pong, s'envoie mon cœur de gauche à droite, faut pas que je succombe. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché, mais il y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert, non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. J'ai des phrases dans la haine. Faut percer, quitter la tête. Pas de garde, payer en espèce. Prends le game en toute vitesse.
En ces temps, rien n'est parfait.
J'ai appelé à l'aide. J'ai cherché, mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Mais t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert, j'ai des vrais sorts dans la haine. Faut percer, quitter la tête. Pas de garde, payer en espèce. Prends le game en toute vitesse. And you know, and you know, and you know.
Lucen de Yakuza qui faisait partie avec vous, Attic, de la brochette des révélations de la musique cette année. Belle brochette, hein. Il y avait Iseult, c'est elle qui a gagné. Il y avait aussi qui déjà.
Il y avait Hervé.
Préchauffe, il y avait Hervé.
J'ai croisé hier à Gare de Lyon, j'ai fait un gros bisou.
Non, c'est avec les gestes barrières.
Gros je vous félicite.
J'ai fait un gros bisou à la radio, quoi. J'ai fait un gros bisou à la radio, voilà.
Vous êtes tous restés un petit peu en contact. Ça a créé quand même quelque chose, ces révélations. Il y avait Clou aussi, d'ailleurs.
Alors, moi, c'est très compliqué de rester en contact avec moi, étant donné que j'ai plus de réseau. Donc, j'ai pas vraiment de lien avec les personnes que j'ai croisées. Mais après, ça arrive qu'on se croise sur des promos. Là, comme ça, on se croise.
Ça veut dire quoi, plus de réseau?
C'est-à-dire que j'occupe plus à temps plein mes réseaux.
Ouais,
mais... C'est moi qui décide ce qui est posté, c'est moi qui fait les vidéos, qui met les photos, qui les prend, etc. mais au quotidien, être présent sur le téléphone 8 heures par jour, c'est plus moi qui le fais.
Ce que vous faisiez auparavant.
Ce que je faisais auparavant, et à un moment donné, je me suis rendu compte que...
Que quoi ?
Ça prenait énormément de place dans ma vie, et surtout, c'était une place qui nuisait parfois à la... au temps que je mettais dans d'autres choses comme la création, etc. Donc j'ai préféré plus prendre un petit peu le large là-dessus et pouvoir me concentrer sur... l'objet principal de ma musique, qui est la musique.
Et qui est cette, aujourd'hui donc ce premier album. Voilà. En plus, c'est un premier album, on va en parler tout de suite. 29 titres. Juste une chose, quel souvenir vous gardez-vous de cette cérémonie des victoires de la musique, de votre prestation, de ce qui s'était passé sur le plateau?
C'est super.
Il y a eu des retours.
J'ai envie de vous dire, je suis aux victoires de la musique. Donc moi, à partir de ce moment-là, déjà, c'est une fierté pour toute ma famille. Donc
tout le monde était devant le poste.
Ah bah oui, la famille, les amis de la famille, les copines de ma grand-mère.
Ça a été enregistré?
Je sais. Bon, après maintenant, on n'enregistre plus, c'est un replay.
Mais c'est vrai, c'est une réflexion de boomer. Je vous réfléchis.
Mais non, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est beaucoup de mes proches qui m'en ont parlé.
Ouais.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens même. Qui m'ont connu il y a très longtemps, qui m'ont envoyé des messages, etc., en me disant « Putain, c'est fou le chemin parcouru, tu te retrouves aux victoires et tout. » Donc, j'ai que du bon souvenir de cette cérémonie, quoi.
Alors aujourd'hui, c'est le premier album Vague à l'âme, 29 titres, après la série de mixtapes chez Spliant, après une année de folie, la gloire qui vous est tombée dessus avec notamment Validé, la série pour Netflix, 20 millions de vues, je rappelle pour ceux...
Canal+.
Pas Netflix. Ah,
oui. Oui, Canal+. Oh,
c'est pas mal aussi Netflix, hein.
Il y a une saison prochaine.
Il y a une saison 2 qui est prévue.
Il y a une saison 2 à laquelle je ne participe pas.
Ouais. Ah, pourtant, au départ, vous étiez peut-être censé participer. Il me semble que quand vous avez rencontré au moment des révélations, on avait parlé d'une possible saison 2 de Validé. Vous aviez dit, ah, peut-être.
Bah, je pense pas, parce qu'à ce moment-là, je disais déjà que j'étais plus dedans.
Ah ouais,
ça fait déjà plusieurs mois que je dis que je suis dedans. Ça a mis un petit peu de temps. Mais à un moment donné, en fait, j'ai voulu, même pour leur rendre service, ne pas faire de l'ombre à la série, parce que les gens attendent quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, je préfère qu'ils se concentrent sur le prochain personnage principal, qui est une chanteuse, une rappeuse, qui est extrêmement talentueuse, que j'ai vu jouer quand je suis allé les voir, leur faire un coucou sur le plateau. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de maintenir le mythe, alors qu'en vrai, on a tourné la page, et c'est super, l'histoire de la page, elle a duré une saison, c'était très bien. Moi, j'ai envie de développer ma carrière au cinéma en faisant d'autres rôles.
Et alors, il y a des rôles qui se profilent?
Ouais, je tourne un film en avril. Très sympa, avec un grand réalisateur français qui est souvent primé, etc. Donc, je peux pas en parler plus, malheureusement, mais.
Jacques Audiard?
Non.
D'accord. Ok. Bon, j'ai tenté un truc.
Mais c'est très quali aussi, hein.
Mais c'est très quali, d'accord. Ouais, j'étais pas si loin que ça.
C'est pas du tout mainstream. Enfin, ça a rien à voir avec Validé. C'est pour ça que je trouve ça super de prendre ce rôle-là. Et je suis très difficile sur les rôles que je prends parce que je le fais pour
j'imagine,
plaisir.
Ouais. Et c'est un rôle de composition? C'est un rôle proche de vous, loin de vous?
Mais je dirais pas qu'il est loin de moi parce que ça se passe dans un univers urbain de banlieue. Mais par contre, le genre n'a rien à voir avec ce qu'on peut attendre de moi.
Très bien.
C'est un film de terreur. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est un film de terreur. C'est un film de genre.
Ah, j'adore ça.
Voilà.
Alors, pour ouvrir.
Je déteste les regarder en plus, moi. Donc ça va être très bizarre.
Moi, j'adore.
Ah, je déteste ça. Ça me met mal à l'aise. Donc, c'est bien. Ça va démystifier le truc et peut-être que je vais apprécier maintenant.
Généralement, c'est les tournages les plus joyeux, vous savez. Les films d'horreur.
On verra bien.
Alors, pour ouvrir, avant d'écouter l'album, je voudrais qu'on écoute ceci parce que l'album est placé sous son signe.
Coupé du monde à fond dans la relation. Toi t'es ma bombe, les autres c'était tous des cons. De toute façon, toi c'est pas pareil. T'es une perle, tu sais, t'es rare. Je crois que je t'aime, etc., etc. Petit cœur est tombé sur une bombe. Petit cœur est tombé et ça fait mal. Je suis tombé sur une bombe. Petit cœur est tombé
comme on en voit.
Bien sûr, tout le monde l'aura reconnu, c'est Diams, même si elle a disparu du paysage musical. Vous ouvrez sur Diams, qu'est-ce qu'elle a pu d'abord représenter pour vous, avant même d'aller sur cette ouverture?
Diams, c'est toute mon adolescence. C'est certainement l'artiste que j'ai le plus écouté dans ma vie, avec Soprano. C'est une grande dame avec un grand cœur et un parcours d'écorché vif qui m'a tout de suite percuté. Depuis tout petit, alors que je comprenais même pas ce qu'elle racontait, puisque elle racontait des choses qui m'étaient incompréhensibles, moi, du haut de mes 14 ans. C'est le premier concert de rap français que j'ai vu sur une petite salle à Ris-Orangis quand elle faisait la tournée pour préparer la sortie de son album. Elle faisait déjà les morceaux de son nouvel album en exclusivité, son album Dans ma bulle qui a cartonné, qui l'a révélé vraiment.
Explosé complètement,
voilà. Et c'est, en dehors de ça, c'est même une grande dame avec qui aujourd'hui je peux avoir des tas de conversations qui sont extrêmement enrichissantes. Je parle avec elle. Là, on s'était pas parlé pendant quelques temps, Et là, on se parle, là, la semaine dernière, on s'est parlé tous les jours.
Vous êtes en contact régulièrement avec elle?
Oui, je suis en contact régulier. J'ai même parlé avec sa maman il n'y a pas longtemps.
Qu'est-ce qu'elle devient alors?
Mais Diams, elle a sa vie de famille.
Je sais ça, oui, oui.
Elle a sa vie de famille, elle est tranquille, elle ne vit plus en France. Je pense que je peux dire ça sans trahir sa vie privée. Mais voilà, c'est... après, elle fait souvent des allers-retours, Paris, etc. Le monde sur ses réseaux d'ailleurs. Mais elle a juste une vie aujourd'hui qui m'a l'air d'être... pour le peu que j'en sais, parce que je suis pas rentré dans son intimité, mais qui m'a l'air d'être ultra saine parce qu'elle est en paix avec elle-même, qu'elle se cherche plus une paix qu'elle ne saura trouver dans le milieu de la musique qui, en fait, ne lui correspondait pas. Et c'est une dame qui est tellement en paix qu'aujourd'hui, elle peut amener de la paix autour d'elle et aider les gens autour d'elle. Et je le vois, moi, parce que dans les discussions qu'on a, elle est pleine de lumière, en fait.
Vous parlez musique ensemble, quand même?
Jamais.
Jamais.
En fait, le seul moment où on parle de musique, c'est quand elle me dit « Fais attention ». Fais attention à toi parce que tu as grand cœur et ce milieu n'est certainement pas fait pour toi. Je te dis pas qu'il faut pas y aller, je te dis juste fais attention parce que ça peut te bouffer, tu vas pas le voir arriver.
Et ça, quand elle vous le dit, ça vous touche personnellement, c'est-à-dire que ça fait vraiment résonance en vous?
Bah oui, enfin c'est comme si un ancien alcoolique te dit faut pas boire en fait, parce que du coup tu sais qu'il est passé par là. Et qui mieux que Diams peut parler du rapport au succès aujourd'hui? C'est la personne en France qui a eu le rapport au succès le plus violent qui soit dans la musique, je pense, parce que ça a été la plus grosse vendeuse de disques de rap dans l'histoire avant que Jul reprenne le trône. Mais à l'époque, c'était la number one, incontestée, femme, homme, tout genre confondu. Enfin, c'était un monument, un monstre. C'est...
Alors, vous ouvrez justement l'album sur une chanson qui lui est plus ou moins dédiée. En tout cas, ça parle d'elle. Ouais. Extrait.
Mon passé pèse lourd dans mon regard, mon futur se dessine dans mes erreurs. Quand je fais tout bien, c'est un fait rare. Peut-être qu'au fond, je préfère la terreur. Je culpabilise quand je souris, car très vite, je me rappelle du mal que j'ai fait. Je sais pas si je mérite tout ce que le ciel m'a envoyé cette dernière année, parce que j'ai fait du sale y a pas longtemps de ça. Je monterai pas là-haut si je meurs dans le sale. J'aurai aucun bagage comme la Lufthansa. Je suis bon qu'à prêcher le bien, faire le mal. Mais est-ce que le messager est plus important que le message? Je crois que j'ai déjà la réponse. Comme toutes les autres réponses, se trouve dans ma tête et mon livre. Celui qui me fait me sentir libre, celui qui me fait me sentir libre. Celui qui me fait me sentir libre, celui qui me fait me sentir libre. Y'a trop de gens qui m'aiment et je l'ai jamais souhaité. Je pensais pas regretter ma vie d'avant, quand j'avais pas besoin de m'inquiéter sur la sécu de mes darons, mais dorénavant. Chaque choix que j'ai fait, c'est pour quitter la terre où j'ai grandi. Parce que s'il y a trop de vipères, je me prends la tête avec les gens qui m'aiment le plus. Jusqu'à ce qu'ils m'aiment plus. Jusqu'à ce qu'ils m'aiment plus. Y'a trop d'étoiles dans le ciel et je veux toutes les attraper. Ma grand-mère est fière de moi et je crois que c'est ma plus grande fierté. Mais des fois je regarde le ciel et je l'interroge. Cherche le regard de mon grand-père en fermant les yeux juste pour trouver son approbation. Et quand je les ouvre, je vois des milliers d'euros et des populations qui meurent de faim. Pendant qu'avenue vagrant on m'offre à manger, là où le petit peuple fait la queue. Après un mois à serrer la ceinture, juste pour pouvoir goûter un peu de vie, juste pour pouvoir goûter un peu de luxe, juste pour impressionner leurs followers, juste pour impressionner leurs followers. Et si je suis qu'un pion dans le système, je vais m'éclipser de l'en vitesse. Parce que plus les euros rentrent, et moi je me sens apaisé. Et pour compter le poids de mes péchés, y'a pas assez de chiffres sur la pesette. Tout le monde me dit de sourire, pourtant je fais que subir. Et même si je suis subi, j'ai pas la vie sublime, non. À peine quelques mois que j'ai pété, j'ai déjà ma dose. Si demain je pète une gove, au bout de quelques mois j'en veux une autre. Pas de quoi être fier. Et je te parle même pas du jean. Non, je te parle même pas du jean. Non, non, non. Non, je te parle même pas du jean. Non, je te parle même pas du jean. J'ai ce que je veux. Si demain je l'ai, je m'en bats les couilles. Je voulais les West Indies, demain je vais Los Angeles. Regarde la tristesse dans mes yeux, regarde la mélanine. Je crois que je vais faire mes bagages loin de là à la Mélanie. À la Mélanie. Je crois que je vais faire une Mélanie. Triste mélodie. Je vais faire une Mélanie. Sur une triste mélodie. Et j'ai peut-être pas tout dit, mais j'ai peut-être tout dit.
Je vais faire une Mélanie, ça veut dire je vais faire une dépression, c'est ça? Le nom Mélanie, c'est le nom de Diams, hein, c'est le prénom de Diams.
Après, moi, c'est une expression qui est venue dans mon langage il y a quelques mois de ça. Post-validé.
Suite à quoi? Suite à validé, suite à la
validé,
série.
Suite à l'explosion, suite au fait de rentrer en France après le confinement et de me rendre compte que bah, ma vie, elle sera plus jamais pareille. Et on met du temps pour réaliser. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, je vais faire une Mélanie. Et la Mélanie, pour moi, ça n'a jamais été synonyme forcément de dépression, même si j'étais très triste. C'était plus l'idée de tout lâcher, en fait, prendre mon envol et juste me reconcentrer sur ce que j'aime dans ma vie, à savoir faire de la musique le plus simplement possible et vivre la vie à laquelle j'aspire. Et la vie à laquelle j'aspire, c'est pas la vie que les gens pensent imaginer dans mon cœur à moi, en fait. Les gens, je pense que dans leur tête, ils se disent, il veut être célèbre, il veut être connu, il veut être sous le feu des projecteurs, être pris en photo à tous les coins. En fait, c'est pas ça. J'aspire à des choses qui sont ultra simples. C'est ça, faire une Mélanie. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu faire à la base. C'était sortir de ça. Pas forcément arrêter la musique parce qu'elle aimait pas la musique. Je pense qu'elle aimait profondément. Mais le milieu de la musique l'a dégoûtée de l'art elle-même, je pense. Sans vouloir parler à sa place, mais je pense que c'est surtout ça.
Diams a écouté cette chanson?
Je pense pas qu'elle ait écouté, mais par contre, elle a le texte depuis juillet. Depuis le moment où je l'ai écrit, je lui ai renvoyé. Elle m'a dit que c'était touchant. Après, elle va pas me dire que c'est extrêmement bien écrit, etc., parce que ça reste du rap et qu'elle est loin de tout ça aujourd'hui. Mais en tout cas, elle a lu le texte et elle m'a dit que c'était touchant. Voilà.
Et si jamais elle vous avait dit non, j'aime pas ce texte, est-ce que vous l'auriez quand même enregistré, cette chanson?
Pour le coup, le son était déjà enregistré. Après, si elle m'avait dit ça, j'aurais énormément discuté avec elle pour comprendre. Et je suis loin d'avoir quelqu'un de bête et fermé en face de moi. Diams, j'ai beaucoup parlé de plein de choses avec elle et elle est loin d'être fermée.
Quand
on a parlé
de quoi?
D'œuvres d'art, de choses comme ça, où aujourd'hui on s'imagine que jamais de la vie elle pourra faire ça. Et en fait, c'est pas qu'elle est pour l'ouverture totale, c'est juste que c'est pas quelqu'un de fermé. Elle est tout le temps ouverte à la discussion et elle a des idées qui sont extrêmement bien construites et je comprends parce que j'ai aussi l'idée de me dire que elle est heureuse comme ça, donc j'arrive à comprendre là où elle veut aller et pourquoi elle accepte ceci, pourquoi elle refuse cela, etc., etc.
Dans quelques instants, on va écouter un autre titre, Mère, c'est celui qui arrive juste après, de ce nouvel album. 29 titres. C'est un tour de force pour un premier album. Ça veut dire vraiment qu'on veut signer une position dans la musique aujourd'hui, dans le paysage musical. Sortir un double album pour le premier, c'est absolument gonflé. Généralement, ça arrive beaucoup plus tard.
Il n'y en a
pas beaucoup. Je pense à Camila Jordana, mais elle est arrivée, c'est le quatrième album. Ça représentait quoi pour vous de signer 29 titres, d'arriver avec 29 titres? Alors déjà qu'il y avait des mixtapes avant, qui avaient eu un énorme succès quand même.
En
14
vrai,
millions de vues, hein, je rappelle, pour ceux qui sont passés à côté, pour notamment la chanson avec Amel Bent.
Ah oui, bah après, c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de choses qui se sont passées de manière ultra positive. Hein, on va pas se mentir, c'était une belle année. L'idée, c'était pas d'être dans un calcul. En fait, le seul calcul que j'ai fait, c'est de me dire, j'ai des morceaux qui vont dormir dans mon ordi. Qu'est-ce que ça me coûte de les lâcher? C'est quoi la différence entre un album et un double album? Bah, tu donnes plus de musique aux gens. Après, un double album, évidemment, il y a peut-être plus de déchets dans le sens où tout le monde va pas aimer toutes les directions de l'album parce qu'il y a plein de directions.
Alors ça, on va
plein de directions.
Justement, ouais.
Mais l'idée, moi, je suis pas dans. Il faut que l'album soit parfait pour chaque personne qui va l'écouter, que tous les gens aiment tous les albums parce qu'en fait, je me suis fait à l'idée que ça n'existe pas. Il y a pas un album où je peux dire que j'aime tous les sons de la même manière et qu'ils sont tous parfaits. Même les plus grands albums que j'ai aimés dans ma vie, il y a toujours des sons que je vais préférer vraiment mettre beaucoup plus au-dessus que d'autres. Donc la logique, c'était juste de pas garder pour moi des titres, alors que j'en ai fait un paquet et j'en ai déjà coupé. Franchement, j'en ai coupé beaucoup. Hein.
Mais
pour
arriver
à 29,
beaucoup,
j'en ai déjà coupé beaucoup.
Vous écrivez beaucoup?
Je fais beaucoup de musique. J'écris plus.
Ouais.
J'écris quasiment plus. À la Mélanie, c'est un des seuls morceaux de l'album qui est écrit. La plupart, c'est des morceaux qui sont pensés et qui sont faits en improvisation devant
en
le
studio.
Micro. Voilà, en
tout
studio.
Ça, vous êtes plusieurs à faire comme ça. Hein.
Ouais. Après, c'est une habitude, c'est que l'écriture maintenant, elle se fait tellement de manière instinctive dans ma tête que j'ai plus besoin de la mettre sur mon téléphone ou sur papier. Et du coup, je me concentre sur avant tout la musicalité. Donc, je trouve les mélodies parce que c'est beaucoup plus chanté aussi.
Tout
donc,
à
ça
fait.
Va avec le fait de ne plus écrire. C'est que dès que c'est rappé, je vais écrire parce que le processus de rap, c'est enchaîner tout un tas de mots, etc. Et c'est beaucoup plus simple quand on écrit d'enchaîner un texte de 3 minutes en le faisant en one shot, c'est-à-dire en une fois sans s'arrêter.
Ouais.
Que de la chanson, on s'en fout. On fait 2 phrases, on passe aux 2 phrases d'après, on passe aux 2 phrases d'après. L'idée à la fin, c'est d'avoir des mélodies qui vont bien ensemble, un texte qui a une cohérence. Et j'arrive à le faire juste en, sans écrire.
Alors, quelle est la différence entre aligner des mixtapes et réaliser un premier album pour vous, Attic ?
La différence pour moi, elle est dans le fait que ma mixtape, les deux premières mixtapes avec la réédition, c'était un laboratoire à ciel ouvert qui m'a permis de montrer aux gens un peu beaucoup de choses que je savais faire, même si j'ai pas tout montré. Je voulais montrer que je suis arrivé avec un truc très brut de chaise pliante, parfois un peu vulgaire, et que aujourd'hui, moi, je suis beaucoup moins là-dedans. Mais il y a d'autres facettes. Angela est sortie très tôt. Angela, on s'était vu l'an dernier.
Tout à fait.
Avec Fefe Leroy, justement. Mmh. Bah voilà, Angela a pris bien après. Donc c'était avant tout ça, je voulais déjà m'ouvrir dès le début, faire des guitares-voix, faire des choses comme ça. Et l'album, il est beaucoup plus pensé comme un projet avec une cohérence globale. Je voulais une harmonie autour de la thématique. Le champ lexical de la mer, de l'eau, des vagues, ça revient tout le temps. Je voulais que l'album, après j'ai pas voulu ça, mais il s'est retrouvé à être vachement triste et mélancolique de manière générale.
On l'a vu dès l'ouverture.
Bah, dès l'ouverture, c'est très triste.
Et on verra l'ouverture du deuxième CD dans quelques instants.
C'est celui que je préfère. Donc,
ah ouais, Bibi.
Il y a cette cohérence qu'on recherche dans un album qu'on va pas forcément, mettre l'accent totalement dessus sur une mixtape. En tout cas, moi, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Même des bruits, un petit peu d'habillage sonore, des bruits de vagues, des bruits de mer par-ci par-là. C'est pas trop chargé, c'est juste ce qu'il faut.
Eh ben, c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Mer, deuxième titre de cet double album. Cinéatique.
Y'a rien qui nous sépare, à part la mer et quelques kilomètres. T'inquiète pas, j'arrive bientôt, Angela. Car quand t'es loin de moi, c'est plus la même. Toi et moi, on sait ce qu'il faut. Quand je suis dans tes bras, c'est festival. Je viendrai te rejoindre en surprise. Hey, marre de ces jeux, t'aimes en suspens. Hey, elle voudrait tout goûter à ma life, oh. T'es la seule que je présente à ma daronne. Là je vais prendre un billet maintenant. Et demain je serai dans tes bras jusqu'à l'infini, oh, oh.
Mer, deuxième titre sur ce double album qui s'ouvre sur un autre titre, on va en parler tout à l'heure parce qu'il m'intéresse vraiment, c'est Habibi. J'aimerais revenir sur ce thème de mer, puisque quand on regarde le livret, quand on regarde le CD qui s'ouvre, paysage maritime, vous en breton ou presque, comment ça s'est passé ?
Bah, ça s'est passé très bien. Donc on a fait cette cover avec Fifou, qui est un grand photographe dans l'histoire du rap, qui réalise énormément de pochettes depuis des années pour beaucoup d'artistes, pas que des rappeurs d'ailleurs. Et en fait, il y a eu énormément de propositions qui ont été faites de la part de Fifou. On a réfléchi en équipe et tout. Et à un moment donné, j'ai appelé Fifou, je lui ai dit, en fait, j'ai envie de quelque chose de brut, qui soit sincère, qui soit très simple, à l'image de l'album. Pas un grand truc énorme avec des tableaux et il fallait des constructions et on avait pensé à de l'eau qui tombe, imaginez une énorme fontaine et je suis au milieu. Un truc très simple, faisons un beau portrait à la Merche ou des choses comme ça. Donc je me suis mis dans l'eau. On a fait des très belles photos dont je suis extrêmement fier et je trouve qu'elles reflètent parfaitement le disque. Le regard que j'ai sur la pochette, c'est le regard de quelqu'un qui est parfaitement en phase avec son disque pour moi. C'est un truc mélancolique, même ça va au-delà du rap. Les gens me disent en fait, alors c'est une pochette de rap, en fait, on dirait.
C'est exactement ça. Fifou, c'est quand même la signature de la photographie de rap. Mmh. Et là, c'est pas une pochette qu'on attend pour un album rap. Et d'ailleurs, est-ce encore un album rap? Puisque c'est très chanté.
Je pense que le rap aujourd'hui a tellement c'est tellement mélangé avec énormément de genres. C'est très métissé le rap aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut parler de rap ou de pop urbaine? Je sais pas. Et en vrai, je me prends même pas la tête avec cette étiquette. Je laisse le soin aux gens qui sont les rois des étiquettes. Moi, pour moi, c'est juste de la musique d'un artiste. Aussi simple que ça. C'est, il y a du chant, il y a des influences de andalouses sur Habibi, il y a des influences maghrébines, il y a des influences des Antilles, beaucoup, il y a énormément de choses. Donc, j'arrive pas à résumer l'album avec une étiquette.
Et c'est pour ça que ce titre m'intéresse, Habibi, puisque c'est une autre direction de l'album. On a entendu tout à l'heure, à la Mélanie, ça ouvre le premier CD. Mm-hmm. Tout de suite, Habibi, ça ouvre le second CD.
Yes.
Allez, vas-y, lâche ma main. T'as pas roulé droit, je t'ai oublié. Grâce à Dieu, je t'ai pas mis la bague. Là, je vais remettre mon bouclier. Tu parles beaucoup. Je veux pas des paroles, je veux des actes. Ouais. Mais tu parles seul tout. Tu sais bien que t'as perdu le pactole, ouais. Oh. Hey baby, hey baby, hey baby. 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 Tout est cassé, à faire classé. T'es pas carré. Donc je vais barrer. Tout est cassé. À faire classé. T'es pas carré. Donc je vais barrer. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Hey baby.
Quand vous ouvrez le deuxième album, donc de ce double album, Attic, avec ce titre-là, ça vous permet de dire quoi, musicalement et même dans le texte?
Bah, ça me permet de dire que déjà, là, on va rentrer dans une partie qui est un petit peu plus personnelle et touchante. Et c'est comme ça que je conçois la deuxième partie. Ça s'est fait naturellement. Et moi, quand j'aime l'évolution dans un track listing, dans l'ordre des morceaux, j'aime pouvoir arriver très fort. Et plus on rentre dans l'album, plus on apprend à rentrer dans la vie de l'artiste. C'est la touche de tous les albums que j'ai aimés dans ma vie.
Vous pensez à quoi, justement, quand vous citez ces albums?
Je pense à l'album... C'est toujours la même, hein. C'est Dans ma bulle de Diams.
De Diams, ouais.
Ou la piste 13 de son album, c'est TS, où elle parle de la tentative de suicide. Ou la piste 15 ou 16, c'est Petite banlieusarde, où elle raconte tout son parcours et qu'elle raconte sa vie avec sa mère et tout. Et ça, c'est des morceaux qui me touchent. Et j'aime le fait qu'ils arrivent en fin d'album, alors qu'on s'est pris déjà des titres où on a le service de Attic, les hits, le.
Tout à fait.
Les volontés de hit, en tout cas, les volontés de faire des grandes chansons populaires, etc. Et puis après, il y a ce que j'appelle, moi, des grandes chansons, des belles chansons, où là, je me raconte, je parle de mes souffrances, et parfois, c'est des morceaux qui sont extrêmement durs à faire et à écouter et à faire écouter aux gens. Mais c'est ceux-là qui restent dans une carrière pour moi. C'est ceux-là qui vont marquer les gens.
Une question par rapport à ce que vous avez imaginé. Quand on fait un album, on imagine aussi la scène, même si pour l'instant tout le monde en est privé, on le sait. Mais mm-hmm. Quelle est la scène que vous imaginez pour ce double album aujourd'hui, Attic?
Moi, là, selon moi, je peux partir qu'avec des musiciens. Parce que, justement, j'expliquais hors antenne qu'on a enregistré la semaine dernière des contenus vidéo. filmé dans un studio où en fait on a fait appel à un pianiste et un guitariste avec lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle Wax, qui est un guitariste de talent, et en fait ils ont recomposé les morceaux, donc ils les ont réinterprétés au piano, à la guitare seulement, moi à la voix, et on va sortir ces capsules où en fait on prend les morceaux de l'album mais les gens les découvrent en version live.
Version acoustique.
Version live studio acoustique. Et je pense que c'est des capsules qui vont être bien, parce que même moi, dans l'interprétation, ça me permet de donner des choses que je donne pas sur le disque, qui sont certainement un petit peu plus touchantes. En tout cas, je laisserai les gens juger de ça. Et puis, ça donne du live aux gens. Donc là, aujourd'hui, je peux penser ma scène que en composition avec des artistes autour de moi. Je peux pas être tout seul sur scène avec un DJ derrière moi. J'ai besoin de faire vivre ce disque avec de la musique, avec un percussionniste, avec un guitariste, avec un pianiste si on peut. Enfin.
Ah ouais, il y a vraiment une évolution. En effet, ouais, avec ce premier album, on voit qu'il y a une évolution dans le parcours. Marion,
vous travaillez en équipe.
Ouais.
Avec beaucoup de gens. Est-ce que votre entourage a bougé depuis Chaise Pliante?
Parce que
tout à l'heure, vous me parliez presque de séminaire quand vous travaillez.
Oui, on travaille en petit comité. En fait, on est quatre sur la partie vraiment musicale. On est quatre. C'est-à-dire qu'il y a donc moi, Medellin, qui est mon compositeur attitré, qui est le chef d'orchestre, réalisateur de l'album, etc. Et il a deux compositeurs avec lui qui travaillent sur quasiment tous les titres ensemble, qui s'appelle Il Knight et Trax. Trax, c'est un compositeur qui vit au Canada, mais c'est tous des Français. Il Knight, c'est un Parisien. Et on a cet esprit d'équipe où on a construit l'album dans des maisons. En Normandie, on a pris un séjour à Granville de 2 semaines et un séjour à côté de Deauville de 2 semaines pareil pour faire l'album. Et on a fait 80% de l'album là et le reste à Paris, à droite, à gauche.
Donc placé sous le signe de la Normandie.
Placé sous le signe de la Normandie, à côté de la mer.
À côté de la mer avec une certaine nostalgie.
J'allais faire mon footing au bord de plage. On se réveillait le matin, on ouvrait la fenêtre, on avait une vue panoramique sur les plages de Normandie qui était incroyable. Et bon, c'est un peu un lot de consolation, mais de luxe, c'est qu'à la base, on devait faire cet album à Los Angeles.
C'est pas
la même chose, mais justement, ça teinte d'autres choses.
Mais je trouve que ça amène une mélancolie qu'on n'aurait peut-être pas eu à Los Angeles, parce que c'est très sunshine, et en vrai, on aurait vécu tellement un moment qui était fou, parce que je suis amoureux des États-Unis, j'ai déjà vécu là-bas quand j'étais plus jeune, donc je suis pas sûr de... Bon, après, j'arrive à m'adapter... Enfin, j'arrive à rester focus sur ce que je vais raconter, peu importe le contexte. Mais là, pour le coup, ça collait parfaitement avec l'idée du vague à l'âme.
Je sais que votre famille est fan de vous. Vous citez votre grand-mère dans la première chanson. Ouais. Et vos petits frères?
Ben, mes petits frères, ils sont... C'est drôle parce que c'est certainement les personnes qui sont... Ils sont peut-être fans, mais c'est certainement les personnes qui le montrent le moins dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que mes petits frères, ils me parlent pas parce que je suis attique.
Non, mais ça, j'imagine.
Pour eux, c'est clément. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère... Encore tout à l'heure, elle m'envoyait un message, elle me disait, j'ai passé l'après-midi à regarder des vidéos de toi sur YouTube. Alors que mes petits frères, jamais ils m'ont appelé pour me dire, j'ai écouté ton dernier album, il est super. Je sais même pas s'ils ont écouté mon album, mes petits frères. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est fou. Donc, je trouve ça sain. Parce que ça veut dire que, ça permet de garder les pieds sur terre, même si j'ai pas besoin de ça. Mais c'est cool, en vrai, que mes petits frères, ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Je pense qu'ils aiment bien au fond et qu'ils sont très fiers, mais on est très pudiques là-dessus avec mes frères.
Vous êtes le seul à faire de la musique chez vous?
Ouais, je suis le seul, ouais. Mes deux petits frères sont pas du tout là-dedans, ils sont dans les jeux vidéo.
Tiens, les magasins viennent de réouvrir.
Je vais certainement les aider, on va essayer de monter des choses pour les faire passer pro, je sais pas, parce qu'ils sont forts en plus là-dedans. Donc.
La musique de jeux vidéo, ça vous intéresse aussi ou pas?
Tout type de musique m'intéresse, sauf la musique de films porno, parce que je pense qu'il n'y a pas de créneau là-dessus, mais c'est pas très grave.
Il y en a qui étaient super dans les années 70.
J'imagine, mais non, maintenant,
La Porte Verte, la BO de Derrière la Porte Verte, c'est magnifique, je vous assure.
J'ai pas vu et j'irai pas voir.
D'accord, très bien. Allez, en tout cas, vous restez avec nous. Tout de suite, on va retrouver non pas une pornostar, enfin presque pour nous, c'est Marion Guilbeault.
Côté.
Je veux bien un peu plus de vocodeur, encore s'il te plaît.
Club.
Sur France Inter.
Marion.
Laurent, quel lancement. Elle est chanteuse, elle est styliste, elle est militante. Thérèse est un électron libre française issue d'une famille avec des origines asiatiques. Elle vient de sortir son premier EP, Rivalité, un disque à l'image de son parcours, métissé, pointu, engagé. La preuve, tout de suite avec ce titre, Chinoise.
Chinoise, Chen-Li, massage, poli, soumise, Oliu, Komi, Katsuni, Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le Gongli 2020 vit ma vie. Shintok, connerie, manga, bar tabac, Jackie Chan, Bruce Lee, tu tabassis, souris. Mateux, mafieux, mini, sizi, virus, c'est qui casse ton riche de
bêtise.
Ni hao, konnichiwa, sawadikap, sawadika.
Banania, couscous, même combat, Ouigo, quel rapport avec moi? Pourquoi t'as le seum qu'on te réponde pas? C'est quoi ton del? Pourquoi t'aboies? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt.
Fuck you, Miss China!
Joue quoi, Nishan, qu'on va tôt? Comme toi, haché, caché, mâché dans mon menu B3. Les Balkans, les gens frais du fa. Aussi la char, bon comme Halo Flové. Dans ce soja, ta gueule de connard laqué. Tu kiffes le karaoké. Taché, sashimi, okazi, à vous, l'Asie t'as bloqué. Si sera mat une dernière fois, mon faciès de Nyakwe. Karaté, karité, garaté, ça on va te niquer. Joue quoi, Nishan, combattant.
Chinoise, et c'est signé Thérèse. Bonsoir Thérèse, bienvenue dans Côté Club avec Attic.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous connaissez la musique d'Attic, Thérèse?
Oui. Oui, oui, oui. Je vais fangirler, mais je fangirl, j'assume.
Bah merci, je viens de découvrir, c'est super, hein, c'est super intéressant.
Thérèse, merci beaucoup.
Thérèse, vous êtes chanteuse, styliste, modèle. Alors par quelle activité on commence? La musique par exemple, ça arrive comment dans votre vie?
Ça arrive comment? Ça arrive jeune. Apparemment, je me suis mise à chanter en même temps que j'ai commencé à parler.
Donc, ah oui.
C'est ce que ma mère me dit. Peut-être qu'elle me ment, je sais pas. Mais ouais. Et puis j'ai commencé en réalité la musique au conservatoire autour de mes 10 ans, je dirais, en piano classique et au solfège aussi. 8 longues années de souffrance.
Ah oui.
À ce point-là.
Avant de passer à autre chose. Oh bah c'était. Disons que le système du conservatoire est quand même très académique et pas tellement adapté à ma personnalité, je dirais. Mais j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, vraiment.
Quelle musique on écoutait chez vous, Thérèse ?
Alors, le premier CD que mon père m'a offert, je crois que c'était un best-of de Cat Stevens.
Oui.
Et sinon, mes parents écoutaient aussi de la pop thaïlandaise, de la variété chinoise... beaucoup de Stones, les Beatles, voilà, plutôt de la musique anglo-saxonne ou alors asiatique.
Et vous, Attic, grosso modo, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez enfant?
Beaucoup de jazz,
ouais.
Et beaucoup de rap.
Ah oui, déjà le rap.
Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de jazz et de plus en plus de rap.
Dans la famille.
Mes parents, ils sont branchés.
Thérèse, avant de jouer, de vous produire solo, vous avez joué dans un groupe qui s'appelait La Vague. C'était quel genre de musique?
C'était de l'électropop, je dirais, avec teinté de rock, parce qu'il y avait de la guitare électrique dessus. Et voilà, c'était. Et je chantais déjà en trois langues, en anglais, français et chinois.
Et aujourd'hui que vous êtes en solo, vous recherchez quel type de son ?
Un son qui me ressemble plus, donc du coup plus influencé hip-hop, on va dire, même si ça reste un mélange de tout plein de choses. Enfin, j'entendais Attic qui en parlait tout à l'heure et je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il est temps d'oublier un petit peu les étiquettes. Enfin, aujourd'hui on est une génération extrêmement à la fois métissée, la musique aussi, comment dire, la pop arrive à une certaine maturité qui fait que on mélange un petit peu tout et je pense qu'Internet a beaucoup joué aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai juste envie de faire une musique qui me ressemble. Donc, qui va chercher de Nicolas Jarre à... qu'est-ce que je pourrais citer, Dionne Vort, en passant par Lana Del Rey et des rappeuses vitamines que j'écoute comme Soulboy ou ce genre de personnes, quoi.
Alors, vous êtes aussi styliste, hein, pour de nombreux musiciens, Songe, Seb oui. Lafrite, Lone Psy, pour des marques, pour des photographes. Vous connaissez Fifou, qui a réalisé la pochette de Attic? Ah, vous avez travaillé avec lui?
Il y a deux reprises avec lui, ouais.
Ouais.
Super photographe, super homme aussi, tout court, super être humain. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder bosser, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, créatif et humble. Et ouais. Je sais pas ce qu'on pense à Tic, mais je pense que s'ils ont bossé ensemble, c'est que...
Je suis totalement d'accord avec lui, avec toi, pardon. Oui, c'est vrai que lui, il est... Enfin, c'est un monument dans le rap, et en vrai, quand tu le vois, tu dis, oh, le mec est super simple, super cool.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Voilà, des discussions hyper fluides.
Ce serait pas mal qu'on l'invite ici, justement. Ben oui, savoir justement comment quelqu'un photographie le rap, l'évolution de l'imagerie du rap qu'il a travaillé depuis des années.
J'ai le contact, hein, je peux vous le passer après.
Très bien.
Ici, hein.
Et vous, Thérèse, comment vous travaillez le style visuel de ce que vous faites?
Alors, en fait,
qu'est-ce qui vous inspire?
Un peu tout. Enfin, honnêtement, tout m'inspire. Tout ce que je vois m'inspire. Je suis un peu une éponge. Et tout ce que j'essaie de faire, c'est de traduire, en fait, ma musique et ma personnalité en vêtements. J'ai la chance, ou la malchance, ça dépend de comment on le prend, mais d'être synesthète. Mmh. Et du coup, en fait, tous mes sens sont très, très connectés. Et en fait, je sens des couleurs, je vois des odeurs. Enfin, tout ça se mélange. Et en fait, ça crée un langage tiers qui me permet, en fait, d'aller d'un sens à l'autre et de le traduire, en fait.
Aujourd'hui, premier EP, Rivalité, 6 titres en solo, donc avec une production très contemporaine, très pointue, mais aussi avec des sonorités asiatiques, comme dans le titre qu'on a écouté, chinoise, mais aussi dans Differently. Et ça, c'est plutôt inhabituel dans la pop. Mmh. Comment vous expliquez le manque d'origine, d'origine asiatique dans la musique?
Je pense en fait qu'on est... moi, je fais partie de la deuxième génération de Français d'origine asiatique. Et peut-être même la première, puisque mes parents, en fait, sont immigrés. Et la majorité des personnes qui sont asiatiques en France ont immigré à la fin des années 70. Mm-hmm. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient vraiment dans une urgence de survie. Donc, ils ont été commerçants, ils sont allés à l'usine, etc., etc. Et ils ont bossé pour pouvoir nous permettre à nous d'aller à l'école et de s'intégrer dans la société. Et finalement, on est la première génération qui s'intègre aujourd'hui au tissu social et du coup, qui commence à prendre la parole, à s'exprimer, même si on n'en est qu'au balbutiement. Mais je pense que avec le temps, les choses vont s'améliorer.
Oui, allez-y.
Ah oui, pardon. Et puis on a aussi le système aujourd'hui qui contient, je pense que l'idée de l'universalisme est en train de d'émerger. Enfin, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. On parle beaucoup de représentativité. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que le système doit aussi un petit peu apprendre à déconstruire certains a priori qu'ils peuvent avoir sur les communautés, et notamment la communauté asiatique, sur les activités artistiques, par exemple. Et d'un autre côté, désolée, chère Mille, et d'un autre côté, je pense aussi que au niveau des personnalités et des enfants issus de cette immigration, ils doivent aussi, à mon sens, oser. Le manque de représentativité fait en général que les gens n'osent pas, parce qu'ils se disent que moi, par exemple, personnellement, ayant grandi avec aucun modèle asiatique, j'ai mis beaucoup de temps aussi à m'autoriser à faire, à prendre cette voie, parce que c'est pas du tout les études que j'ai faites, j'étais pas du tout prédestinée à ça, et c'est que sur le tard que j'ai décidé de me dire, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de la musique, du stylisme, etc. Donc voilà.
Merci beaucoup Thérèse, à très bientôt.
Bonne soirée.
À bientôt.
Je rappelle la sortie de votre premier EP, Rivalité, il est disponible sur toutes les plateformes.
Le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon, malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécone, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
Chaloupé, signé Gaël Faye, ce qui me permet d'annoncer notre invité de demain, le grand Youssoupha, pour la sortie de son nouvel album Neptune Terminus, dans lequel on retrouve Gaël Faye en featuring sur un titre. Youssoupha, ça vous parle, j'imagine, Atti, vous avez travaillé avec lui au début, au tout début?
Alors oui, on a fait un morceau ensemble sur l'album de This Is. Bon, c'était il y a très
longtemps.
J'étais quasiment une autre personne, hein. Et puis maintenant, c'est quelqu'un que je croise souvent parce qu'il bosse beaucoup avec mon compositeur Medellin.
Oui.
Donc on se croise dans mon studio, on rigole des heures et des heures et des heures. Il a même écouté l'album en exclusivité, puis on avait filmé des petites capsules que j'avais mis sur Instagram où il y avait les réactions des gens qui écoutaient. J'avais fait venir Sofiane et du coup j'avais fait une écoute avec Joker et Youssoupha. Et c'était marrant Youssoupha, parce que Youssoupha, il a des réactions et puis des discussions qui sont extrêmement intéressantes sur l'industrie, sur comment je dois penser ma carrière artistique, comment je dois privilégier le plaisir personnel, etc. Donc
c'est pas mal, hein, vous écoutez vraiment tout le monde. Vous écoutez Diams, vous écoutez Youssoupha. Et Youssoupha, par exemple, qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil? Vous vous souvenez?
Youssoupha, il m'a donné comme conseil, c'est un conseil qui est, on ne peut plus vrai, c'est ne t'occupe jamais des chiffres, et encore moins des chiffres des autres, parce que chacun a sa croissance à lui, qui lui est propre. Il y en a qui vont vendre comme ça, il y en a qui vont évoluer comme ça, il y en a qui vont faire tel type de musique et ensuite ils feront tel type de musique. Concentre-toi sur toi, ton truc, ce que tu veux faire, et c'est la musique qui parle, il n'y a rien d'autre qui parle.
Il n'y a pas que la musique, il y a le cinéma, vous en avez parlé, il y a la mode aussi, j'ai appris que vous venez de signer une capsule pour de mode masculine.
C'est ça, exactement, on a fait une collaboration avec, je ne sais pas si je peux dire le nom de la marque.
Bien sûr.
Ok, avec Bershka.
Bershka, ouais.
Du coup, c'est un peu compliqué avec le Covid, les magasins sont fermés et tout, mais elle est disponible en ligne. C'est ma première, mon premier step dans la mode. J'ai été bien encadré par les équipes de Bershka qui ont... C'est une grosse maison espagnole, Inditex, etc. Donc, ils ont les moyens de pouvoir faire plein de choses. Mais j'ai vraiment mis la main à la pâte et j'ai vraiment drivé de A à Z toute la collection, au point que des fois, c'était peut-être pénible pour eux parce que j'avais une vision ultra précise de ce que je voulais. Et moi, ça me fait kiffer de pouvoir faire ces expériences-là parce que je sais que je veux travailler dans la mode, je veux faire du mannequinat, je veux faire du cinéma. Là, j'ai fait un shooting pour un magazine en partenariat avec Burberry par exemple. Enfin, c'est des choses comme ça que quand j'ai une idée en tête, je vais aller au bout parce que il y a pas le choix en fait.
Ouais, je vois que vous partez quand même dans plusieurs directions.
Il faut se diversifier même. C'est là que je prends du plaisir parce que quand je fais d'autres choses, je reprends encore plus de plaisir à faire de la musique ou à faire du cinéma.
À ses origines.
Voilà.
Juste une question par rapport au fait que vous êtes très stylé ce soir encore avec des médaillons qui m'ont intrigué dès que vous êtes arrivé dans le studio.
Alors, bon, ça, celui-là, il veut rien dire. C'est juste que je le trouvais beau. Celui-là, c'est un médaillon que j'ai ramené du Mexique. C'est un calendrier maya. Voilà, j'étais en vacances là-bas, je l'ai acheté dans un temple maya, c'est un petit souvenir en argent. Rien de très clinquant, hein, c'est pas de l'or 24 carats, mais voilà, moi j'aime bien, c'est des petits bijoux que j'aime bien porter tous les jours, quoi.
Des bagues, des médaillons.
Ouais, les bagues, là pareil, calendrier maya ici, c'est vrai, sur la bague.
C'était bien ce voyage là-bas au Mexique?
C'était incroyable, hein, c'était incroyable. C'est le soleil, les plages paradisiaques, le cocktail mangue noix de coco.
Pas du tout Deauville ni Granville, quoi.
Je jouais aux échecs sur la plage pendant toute la journée à bronzer. Enfin, c'était incroyable. Et puis on visite, on voit. Et puis qu'est-ce qu'on mange bien, du bon poisson et tout.
Alors c'est quelque chose qui n'apparaît plus. Ça se reviendra peut-être en 2022, mais pas avant. Oui. Allez, tout de suite, on se quitte avec celle qui explose les compteurs sur Instagram. 19 millions de likes quand elle change de couleur de cheveux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, les millions de vues, vous les avez aussi. Billie Eilish est devenue blonde. Okay. Blonde, je suis. There I am.
Quel artiste.
Ouais, dans Côté Club.
Quel artiste.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused.
Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry.
Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci à Tic, merci à vous.
Merci à vous.
Vagalam, l'album XXL est disponible partout, même chez les disquaires. Ça va faire plaisir à Jean Cassex. Demain, on a rendez-vous avec Youssoupha et c'est le retour avec un nouvel album, Neptune Terminus et Gracie Hopkins pour un rap français en anglais. Marion, demain.
On va passer un coup de fil à Crystal Murray. C'est une des voix de la New Soul française, mais c'est aussi la patronne engagée du label Spin Desire.
Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.